Radio Prague, les informations.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette demi-heure de programme en français sur Radio Prague. Une demi-heure que l'on entame tout de suite par un bulletin d'information. En titre aujourd'hui, des forces de l'ordre qui jouent au chat et à la souris avec les teufeurs venus participer à la Tchèque Tech. Non, à la Turquie en Europe, c'était le thème d'une manifestation organisée ce vendredi dans le centre de Prague. Et nous terminerons ce bulletin avec la météo et la chaleur qui a battu un record vieux de près d'un siècle vendredi à Prague. Des dizaines de policiers membres d'une unité spéciale sont intervenus ce vendredi contre les participants à la plus grande rave party de l'année en République tchèque, la Tchèque Tech. Ce sont des champs à côté de Mlinec, en Bohême de l'Ouest, à quelques kilomètres de la frontière allemande, que les organisateurs avaient choisi comme lieu cette année. Les autorités tchèques semblent cependant décidées à empêcher le déroulement de la fête, qui n'a pas été autorisée comme l'année passée. L'agence de presse tchèque indique que près d'une centaine de rêveurs venus de l'étranger, dont de nombreux Français, ont déjà décidé de rebrousser chemin. Une manifestation a donc eu lieu ce vendredi également sur la place Venceslas, au centre de Prague, contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Organisée par l'association Une Voix pour l'Europe, ce rassemblement a réuni quelques dizaines de personnes malgré la chaleur, et Václav Richter est allé poser des questions à certains d'entre eux. Plus de détails dans un instant dans les faits et événements. Le nouveau siège de la radio Europe Libre, Radio Liberté, sera construit dans le 10e arrondissement de Prague. L'édifice pour cette station de radio américaine, qui émet encore à partir du bâtiment de l'ancien Parlement fédéral tchécoslovaque, situé tout près de la place Venceslas, sera construit dans un quartier appelé Hagibor par la société Orco Property Group. On estime que les travaux de construction et le déménagement de la radio pourraient prendre à peu près 2 ans et demi. Plus de détails dans un instant avec Guillaume Narguet. On passe à l'économie. L'entreprise française Veolia Environnement, ancienne Générale des Eaux, vient d'obtenir un prêt de 12 milliards de couronnes, soit environ 400 millions d'euros, pour ses activités en République tchèque. Veolia Water Česká Republika, sa filiale dans le pays, emploie près de 6 000 personnes dans le secteur de l'eau potable et de l'énergie. Et on termine ce bulletin avec la météo. Le mercure a donc battu un record qui datait de 1921. Au Clementinum, dans le centre de la vieille ville de Prague, les météorologues ont enregistré 35,2 degrés dans la journée de vendredi. En 1921, le maximum atteint avait été de 34,7 degrés. Ce week-end, les températures devraient légèrement baisser avec 31 degrés ce samedi. Fête des Bojivoj en République tchèque. C'est la fin de ce bulletin. Tout de suite, Alena Gebertova pour les faits et événements.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
La canicule qui règne ces jours-ci en République tchèque, quelques 37 degrés dans certaines localités, n'a pas découragé les adversaires de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne à se réunir en signe de protestation sur la place Venceslas de Prague. Un reportage réalisé lors de la manifestation ouvrira notre programme. Les 100 premiers jours depuis l'intronisation du pape Benoît XVI ont été remarqués par les médias tchèques. Nous en retiendrons quelques éléments. D'autres sujets sont encore au menu de notre programme. Une intéressante découverte archéologique a été faite dans le centre-ville de Prague. Les routes tchèques tuent de plus en plus d'enfants. Une série de manifestations, un défilé ont été organisées ce vendredi dans le centre de Prague par les adversaires de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. La série a commencé place Venceslas où des manifestants se sont réunis malgré la chaleur dans la matinée de ce vendredi, brandissant des pancartes et distribuant des tracts. Václav Richter.
Anna Matushkova fait partie de l'équipe Europe Tour, qui est un groupe de 11 personnes ayant parcouru plusieurs capitales européennes pour y organiser des manifestations du même genre. Membre du mouvement Voice for Europe, Voix pour l'Europe, organisé au niveau européen, Anna Matushkova a expliqué son action à Radio Prague.
L'objectif de notre action était d'attirer l'attention sur la problématique de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Dans chaque ville européenne, nous distribuons des tracts, nous parlons avec des gens, nous nous efforçons d'éveiller chez eux un plus grand intérêt pour ce thème, car il concerne l'avenir de nous tous. Nous pensons que la période actuelle n'est pas du tout favorable à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Nous estimons, par contre, qu'il serait idéal si l'Union et la Turquie entraient dans un partenariat spécial, car l'Union se heurte en ce moment à des problèmes qu'elle doit d'abord résoudre. Il serait irresponsable d'inviter à l'adhésion un pays de 70 millions d'habitants qui deviendra le deuxième pays de l'Union, qui a de nombreux problèmes économiques et sociaux, des problèmes au niveau des droits de l'homme et des droits de la femme. Tout d'abord, nous devons mettre de l'ordre dans nos affaires et puis nous élargir.
Parmi les passants attirés par la manifestation, il y avait aussi Georges Benizri, un Français de la région parisienne. Il ne partageait pas les convictions des manifestants.
Je suis tout à fait favorable à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, parce que c'est un grand pays qui a manifesté sa volonté d'adhérer à l'Union européenne. Et en plus, je pense que ça serait une œuvre qui irait dans le sens de la paix dans le monde, parce que ça permettrait à un grand pays à majorité musulmane, mais laïque, de rentrer dans une union qui est démocratique. Et ça serait donc une bonne œuvre pour la paix dans le monde et pour un équilibre de l'Europe.
Quelles seraient d'après vous les conséquences d'une éventuelle adhésion de la Turquie à l'Union européenne?
Je ne sais pas, je ne suis pas économiste, donc c'est une question un peu difficile pour moi. Probablement, ça poserait certaines difficultés. À mon avis, ce sont des difficultés un peu du même ordre que les nouvelles adhésions qu'on a eues à l'Europe pour les ex-pays communistes qui avaient un décalage sur le plan économique par rapport à l'Europe plus riche. Mais j'espère bien que ce décalage va se résorber, comme on l'a vu par le passé, pour des pays comme l'Espagne ou le Portugal. Et donc ce qui s'applique aux ex-pays communistes pourrait fort bien s'appliquer à terme pour un pays comme la Turquie.
Comment voyez-vous les activités de ces associations qui protestent contre l'adhésion de la Turquie?
Je les vois avec beaucoup d'inquiétude, mais bon, là je suis ici tout à fait par hasard, donc je ne connais pas les gens qui organisent cette manifestation, mais ça m'inquiète parce que chez nous en France, ce qui est les gens qui manifestent contre l'adhésion de la Turquie, ce sont souvent, la plupart du temps, des réactions qui sont une forme de xénophobie et de racisme, d'islamophobie. Et quand le nationalisme se réveille, l'extrême droite se réveille, etc., ce sont des choses qui me font peur. Mais enfin, je ne porte aucun jugement sur les gens qui sont ici parce que je ne les connais pas. Mais je sais qu'en France, c'est très souvent teinté de racisme et de xénophobie. Et c'est une des raisons pour lesquelles ce genre de mouvement m'inquiète, a priori.
Une découverte archéologique exceptionnelle réalisée lors des travaux de construction d'un complexe commercial dans le centre de Prague modifie complètement la vue sur l'histoire médiévale de la capitale, Jarkegyszubor.
Trois palais romains datant du XIIe siècle ont été découverts sur la place de la République dans le cadre d'une fouille archéologique préventive qui précède la construction d'un complexe commercial. La découverte a été qualifiée comme la plus précieuse de ces derniers temps par Zdeněk Dragoun, archéologue de l'Institut de protection du patrimoine. Les fouilles ont mis à jour un palais roman et deux maisons d'habitation ayant probablement appartenu à un riche commerçant. La salle monumentale du palais aux voûtes d'arêtes reposant sur trois colonnes n'a pas d'équivalent à Prague. Les archéologues ont également trouvé les vitraux les plus anciens provenant d'une construction non sacrale, près d'un millier de pièces de monnaie et une bague en or qui constitue le plus vieux témoignage de l'existence d'une communauté juive à Prague. Les fondations du palais devraient faire partie intégrante du nouveau complexe commercial, Veronika Kozova de la société d'investissement Palladium précise. Les trouvailles seront rendues accessibles au public au moment de l'ouverture du centre qui est prévu pour l'automne 2007. La trouvaille modifie le regard sur l'histoire médiévale de la capitale. Elle fournit la preuve que Prague, à l'époque romane, occupait une surface beaucoup plus grande et qu'une cité se situait déjà sur cet emplacement avant la seconde moitié du XIVe siècle, lorsque Charles IV a décidé de la création de la nouvelle ville. Or, les riches commerçants auxquels les résidences romanes appartenaient ont fait un mauvais choix, affirme l'architecte Dragoun. Au début du XIIIe siècle, ces résidences ont dû céder la place aux fortifications entourant la vieille ville. L'emplacement d'anciennes casernes austro-hongroises est riche en d'autres monuments, dont les vestiges d'un hôpital gothique, de maisons de style Renaissance et du couvent des Capucins datant du XVIIe siècle. Pas étonnant dès lors que sa transformation en immense centre commercial qui occupera une superficie de 120 000 mètres carrés avec plus de 200 boutiques et restaurants et des parkings souterrains pour plus de 900 voitures a suscité une vague de protestations auprès des organisations civiques. Celles-ci craignent surtout une atteinte grave à l'environnement et au génie de la vieille ville.
Écoutez le groupe tchèque Jablkoň qui s'est produit jeudi soir à Městě nad Oslavou dans le sud de la Moravie. Dans le cadre du festival Les Vacances Folk, Folkové prázdniny, il se déroule tout au long de la semaine et accueille outre les musiciens tchèques aussi ceux d'Afrique, du Bangladesh, d'Irlande ou de Sardaigne. Plusieurs quotidiens tchèques analysent les 100 premiers jours du pape Benoît XVI sur le siège apostolique. Le Rottweiler divin ne montre plus ses dents. Titre, par exemple, un commentaire paru dans les Deva Novene. Son auteur souligne que les mauvaises attentes liées à sa réputation d'adversaire conservateur des temps modernes ne se sont pas confirmées. Il écrit, je cite, on peut dire que le pape demeure fidèle à l'engagement qu'il avait pris et qui consiste à renouer avec l'héritage de Benoît XV et à représenter ainsi un pape de la paix qui n'a pas l'ambition de diviser mais d'unir. L'article salue également les efforts œcuméniques du nouveau pape et son intérêt pour les catholiques non européens, voie qui avait emprunté son prédécesseur Jean-Paul II. Le fait que le pape ait gardé, comme nous pouvons le lire, la tête froide à l'égard de l'islam et qu'il n'ait pas condamné les actes terroristes comme une attaque contre le christianisme est également vu d'un très bon œil. Et le journal citait les paroles de Benoît XVI selon lesquelles l'humanité tout entière se voit menacée. La tranquillité et la discrétion caractérisent les premières démarches du pape aussi pour le quotidien Pravo, tout en appréciant ses initiatives en direction des pays du continent asiatique notamment. Le journal fait tout de même remarquer que ce sont ses premiers voyages qui soumettront le pape à une véritable épreuve. Il rappelle que le 18 août, Benoît XVI se rendra en Allemagne, en Cologne, pour participer aux Journées mondiales de la jeunesse. Une occasion pour lui aussi de visiter une synagogue et de rencontrer des représentants de la communauté musulmane. À la rentrée 2005, le gouvernement tchèque compte lancer une campagne de prévention routière ciblée sur les plus petits. Et pour cause, depuis le début de l'année, 22 enfants sont morts dans des accidents de la circulation, soit deux fois plus que lors du premier semestre 2004. Le dernier accident en date de cette longue série tragique a fait mercredi la une de la presse nationale. Un garçon de 8 ans a été écrasé dans la matinée sur un trottoir par une voiture dont le chauffeur rentrait du travail et s'était probablement endormi au volant. Coup de projecteur sur la situation avec Magda Segertova.
Une lecture difficile, très difficile, que celle de l'article du journaliste Jan Rejek, paru cette semaine aussi dans le quotidien Lidové noviny. Une confession d'un père choqué dont le fils, âgé de 12 ans, s'est fait renverser par une voiture à Prague. Ce papa malheureux, vous l'avez compris, c'est le journaliste lui-même. Mais l'accident qui a presque coûté la vie à son fils n'est pas typique. En République tchèque, la majorité des victimes enfantines de la route meurent dans une voiture, bien souvent conduite par l'un des parents, en tant que passager. Deux enfants sont ainsi décédés en 2004, 14 cette année. Un autre chiffre qui n'est pas surprenant dans ce contexte. Seuls 60% des familles tchèques utilisent des sièges auto pour bébés. Encore que les parents ont souvent tort de penser qu'en installant leur bébé dans un siège, rien ne peut lui arriver, même s'il roule à 100 km à l'heure ou plus, remarque Robert Šťastný du ministère tchèque des Transports. Une campagne qui sera bientôt lancée par le ministère s'adressera justement aux mères et pères de famille, et ceci dans les maternités et dans les cabinets des pédiatres. Les enfants y seront aussi impliqués. Ceux en cours préparatoire recevront à la rentrée une sorte de guide pratique leur expliquant par exemple comment traverser la rue. Enfin, le public attend toujours l'adoption d'une nouvelle législation plus rigoureuse à l'égard des chauffeurs. Vu le lourd bilan dont nous venons de parler, il demeure d'actualité, même si les chiffres globaux concernant la mortalité sur les routes tchèques s'améliorent d'année en année.
C'était les faits et événements en République tchèque. Notre programme en français se poursuit.
Économie, commerce. Alexis Rosenzweig.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans notre rubrique économique, nous allons vous parler du coaching. Le coaching est l'accompagnement de personnes ou d'équipes pour le développement de leur potentiel et de leur savoir-faire dans le cadre d'objectifs professionnels. Aujourd'hui, elle s'est spécialisée dans le coaching, une activité déjà très développée outre-Atlantique. Après un séjour à New York, elle s'est installée à Prague en 1995. Karine Janton-Lépée.
À Prague en arrivant, j'ai fait comme beaucoup de personnes qui souhaitaient s'intégrer, chercher du travail. Et à l'époque, mon domaine était plutôt tout ce qui était ce qu'on appelle en anglais le retail, c'est-à-dire les boutiques. Le management de boutique et le management d'équipe. Et j'ai eu la chance de tomber sur un Français qui avait une petite chaîne de magasins et qui cherchait quelqu'un pour remplacer son directeur. Donc, je me suis occupée au départ de manager des équipes de Tchèques. Et c'est comme ça que j'ai découvert la différence culturelle entre travailler avec des Tchèques, avec des Américains ou avec des Français.
Quelle est la principale différence, puisque vous en parlez déjà?
Eh bien, écoutez, il faut déjà tenir compte du fait qu'en 89 et en 95... Les Tchèques sortaient tout juste du communisme, donc c'est vrai que tout ce qui était culture de service et de vente était assez étranger pour eux. Et surtout, notre façon de communiquer était très différente. Les Français ont une façon de communiquer qui est assez extravertie, même si elle est très implicite. Et les Tchèques sont plutôt introvertis, mais plutôt directs dans leur façon de communiquer.
Et alors, comment communiquiez-vous au départ et avez-vous appris la langue tchèque depuis ?
Alors j'ai pris des cours dès le départ en étant convaincue qu'au bout de 6 mois de leçons intensives, j'allais parler facilement. Et j'ai eu beaucoup de mal parce que la prononciation et la structure de la langue, j'ai du mal. Mais ceci dit, j'arrive à me débrouiller. Et au début, j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir une assistante qui avait passé 3 ans en France et revenait donc dans son pays, et qui était complètement bilingue et qui surtout a compris ce que j'essayais de faire. Donc j'ai beaucoup délégué ma communication.
Vous êtes passée de ce rôle de directrice de retail à ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire du coaching. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs en quoi cela consiste et quelle est votre activité aujourd'hui ?
Le coaching est une activité qui est de plus en plus, j'ai envie de dire, connue, dans la mesure où, au départ, c'était quelque chose qui était réservé aux sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que très vite, les sportifs ont réalisé que pour pouvoir réussir, il fallait qu'ils se fassent aider par quelqu'un d'extérieur et qui leur permette de mettre en valeur leurs compétences et surtout de savoir quelle stratégie adopter pour pouvoir réussir. Et donc, comme très souvent, les entreprises cherchent qui peuvent les aider à être plus performantes. Et ils ont intégré cette discipline, si on appelle ça une discipline, qui permet effectivement à quelqu'un souvent de l'extérieur d'aider des managers, c'est en général réservé aux managers, à identifier leurs difficultés et à trouver des solutions pour effectivement réussir à obtenir leurs objectifs.
Et comment vous est venue cette idée de faire du coaching à Prague, en République tchèque?
Je crois qu'inconsciemment, il y a très souvent, on parle du coaching en tant qu'outil de management. Moi, j'avais passé déjà auparavant 10 ans aux États-Unis. Et à l'occasion de différentes formations, j'avais découvert qu'il y avait d'autres méthodes que simplement les méthodes classiques de donner des ordres et puis d'attendre que les résultats se fassent. Et que lorsqu'on apprenait à communiquer différemment et à tenir compte des besoins des gens, on avait souvent de meilleurs résultats. Donc, j'ai fait comme beaucoup de personnes qui arrivent à Prague, j'ai cherché quels étaient les différents besoins. J'ai surtout vu qu'au niveau donc de la communication avec mes équipes, tous les expatriés que je rencontrais avaient souvent les mêmes difficultés. Comment faire pour que les Tchèques comprennent ce qu'on leur demande et qu'on passe d'une attitude un peu plus directive à une attitude un peu plus de collaboration. Et puis de fil en aiguille et de recherche en discussion, j'ai réalisé que c'était quelque chose qui me correspondait et qui me permettait de faire une transition assez intéressante. Donc, comme beaucoup de personnes, j'arrivais à un âge où on se demande un peu ce qu'on veut faire de la suite de sa vie. Et je me suis lancée dans le coaching en 98.
Et alors, quelle forme ça prend concrètement aujourd'hui? Je crois que notamment vous organisez des déjeuners, des petits déjeuners pour réunir de jeunes ou moins jeunes cadres.
Oui, ça c'est une activité, j'allais dire, annexe. Au départ, le coaching s'adresse soit à des individuels, et très souvent ce sont des directeurs d'entreprise ou d'usine, et des managers juste un ou deux grades en dessous.
Et ça, c'est une clientèle tchèque.
Alors là, très honnêtement, je travaille quand même. Pour faire du coaching, il faut maîtriser la langue. Et même si je me débrouille en tchèque, je ne la maîtrise pas assez pour faire ce genre de conversation. Donc je travaille principalement en français et en anglais. Et donc les différents managers que j'ai, j'ai des Slovènes qui dirigent des entreprises autrichiennes. J'ai des Français qui travaillent pour des Français. J'ai des Tchèques qui travaillent pour des Français ou des Autrichiens ou des Américains. J'ai beaucoup travaillé avec les Américains parce que c'est pour les Américains une méthode qui leur est très familière. Et puis en 7 ans de temps, j'ai travaillé en tout avec 32 nationalités. Donc vous dire exactement quelle est la majorité, oui, ce sont des Tchèques. Des Tchèques où aujourd'hui j'ai beaucoup plus de Français qu'avant, de façon étonnante. Et donc je vous dis, c'est très varié, ça dépend vraiment des besoins et surtout de l'ouverture d'esprit de la personne. Parce que pour être coaché, il faut quand même quelque part accepter de parler, de communiquer, de faire confiance.
Est-ce que vous avez constaté une évolution auprès du personnel tchèque?
Il est évident qu'en 15 ans, vous avez une évolution qui est absolument extraordinaire. Après, pour ce qui concerne le service et le sourire, il faut savoir que le tchèque a un souci d'honnêteté qui, quelque part, est très différent du souci d'honnêteté d'autres cultures. Pour un tchèque, il ne sourira que s'il a envie de sourire. Et pour un tchèque, un sourire qui n'est pas sincère n'est pas quelque chose d'honnête. Donc là, c'est vrai qu'on rentre dans des débats qui sont un peu plus complexes. Parce que le fait de sourire juste parce que ça se fait, c'est quelque chose qui n'aurait pas toujours très très confortable. Ensuite, motiver des Tchèques, c'est pas très compliqué si on accepte d'essayer de les comprendre. Et c'est vrai aussi que 45 ans de communisme ont laissé quand même quelques traces, qu'il est plus facile de motiver les jeunes que les moins jeunes, parce que les jeunes ont forcément une vision de la vie qui est très différente de ceux qui sont pas trop loin de la retraite, et que un des moteurs les plus intéressants pour motiver les Tchèques, c'est qu'ils apprennent toujours quelque chose. Et ça, je pense que c'est une de leurs grandes forces comparativement à ce qu'on trouve même en France. C'est que si vous donnez beaucoup d'entreprises qui donnent aux Tchèques l'opportunité d'apprendre et de progresser, n'ont pas trop de mal à les motiver. Ensuite, il est vrai aussi que le Tchèque a un besoin de se sentir légal ou légal, on dit légal des autres. Donc c'est vrai que les cultures qui ont un système hiérarchique très fort passent moins bien. Le Tchèque n'aime pas recevoir des ordres. Et donc, par contre, mais si on lui fait comprendre le pourquoi et le comment de la responsabilité qu'on lui donne, en général, ça se passe assez bien. Ils sont plutôt courageux, ils sont plutôt travailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a des activités qui leur plaisent plus que d'autres. Et c'est vrai aussi qu'il y a des moments de l'année où ils sont plus désireux de travailler que d'autres. C'est-à-dire qu'ils ont une conception du temps qui n'est pas forcément la même qu'en Europe. L'été, ils aiment bien passer du temps avec leur famille et dans leur maison de campagne. Et ils ne sont pas du tout désireux d'aller travailler dans les hôtels ou dans les magasins pour faire des extras.
Alors si parmi nos auditeurs, il y a des Français ou des Tchèques ou d'autres étrangers qui souhaiteraient faire appel à vos services, comment peut-on vous contacter et où vous trouve-t-on à Prague?
Alors à Prague, beaucoup de personnes me connaissent, donc j'ai la chance de pouvoir être facilement joignable. Ensuite, j'ai une page web qui est www.coaching.cz. Et normalement, sur cette page web, vous avez toutes les informations. J'ai une adresse aussi internet qui est karin@coaching.cz et avec ça, je pense que vous n'avez pas de problème pour me trouver.
Et c'est ainsi que se termine cette émission. Chers auditeurs, merci à Karine Janton-Lépée de nous avoir accordé cet entretien. Merci à toutes et à tous de votre attention et à très bientôt sur Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in